Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Constellation. Le 26 janvier 1914, par l'intermédiaire de son éditeur, Rilke, qui habite alors Paris, reçoit la lettre d'une inconnue. Elle est viennoise, pianiste et signera du nom de Magda von Attenberg. Bien vite surnommée Benvenuta, elle paraît tout droit sortie de la nouvelle éponyme de Stefan Zweig. Voici ce que lui écrit le poète le 4 février 1914, à l'orée donc d'une longue correspondance au cœur de laquelle il livre de précieuses confidences sur l'essence de ses créations, qu'il s'agisse de Malte, déjà évoqué, ou des élégies. Voici un extrait d'une des premières lettres à Benvenuta. Que serait-il arrivé si vous aviez lu plus tôt certains ouvrages de prose, il s'agit précisément de Malte, en deux volumes, travail auquel je pensais liquider des réserves d'anciennes souffrances, sans me douter qu'avec lui, je ne ferais en réalité qu'entamer mon capital de souffrance d'indicible temps. Non que j'ai perdu la foi en ce qu'il y a de plus grand, non que je me sois montré là, timide, ou que j'ai reculé, nullement, j'ai certainement progressé. Mais si je me demande comment, mon ami, il me semble m'être simplement enfoncé les yeux fermés dans une montagne, et que la montagne a réellement cédé, que j'ai pu continuer, par de perpétuels miracles contre nature, à y avancer, que j'ai respiré et expiré de la pierre, n'ayant plus pour essence que de la pierre. Or, comme je n'aime pas les miracles, et que je n'ai de goût que pour le naturel, je ne pouvais éviter de me faire parfois l'effet d'un monstre dans ma montagne. Je me sentais impatient, fatigué, épuisé. J'espérais que quelqu'un vînt m'en extraire à coups de pique, me dégager au ciseau, me déposer dans une prairie sous le vent. Quelqu'un qui ne dit rien, qui comprit tout, qui fut là. Ah, probablement, ai-je tant crié qu'un ou deux passants ont entrepris, en effet, de me sortir. Mais quand ils m'ont eu ramené au jour, avec leur bonté, tout a été faussé. Je n'ai aucun usage des êtres humains. Je m'y suis mal pris, j'ai fini par les prier de s'en aller. Ils étaient à peine partis que je réintégrais, en rampant ma montagne. Dehors, en effet, je me perdais absurdement dans les êtres, me livrant sans rien recevoir en échange par maladresse, alors que la pierre, au moins, assurait ma cohérence, m'imposait une tâche pure et continue, et puis elle n'était pas partout également dure. Alors, mon sentiment a sauté les humains, j'ai voulu tenir ou, à la rigueur, être sauvé par l'ange. Avec lui, je pensais avoir trouvé déjà le rapport juste. Enfin, il y a sûrement un degré de détresse qu'entendent les anges, des ultra-rayonnements de détresse que les humains ne perçoivent pas, qui traversent leur monde épais et ne peuvent faire retentir qu'au-delà, dans la lumière d'un ange, un violet sourd, douloureux, comme l'améthyste dans sa géode. Je n'ai aucun usage des êtres humains, a-t-il affirmé dans cette lettre. Sans doute est-ce pour cela qu'il affectionne tant et qu'il préfère correspondre avec eux, tout particulièrement avec les femmes, avec Benvenuta, avec Lou Andrea Salomé, avec la princesse Marie de la Tour et Taxis, avec Clara Rilke. Mais si la correspondance reste l'incontournable source où puiser une approche de Rilke, une approche, il importe de la concevoir à l'aune des vers de la huitième élégie, comme si un filigrane secret devait analogiquement relier notre lecture de Rilke à la trace du vol de la chauve-souris qui zèbre la porcelaine du soir. Je relis les quelques vers qui avaient déjà été cités dans une émission précédente. Et comme il est troublé, celui qui, né d'un saint, doit se mettre à voler. Comme effrayé de soi, il sillonne le ciel ainsi que la fêlure à travers une tasse, où la chauve-souris qui, de sa trace, zèbre la porcelaine du soir. Pour tenter cette approche, on aura aussi recours à l'incontournable analyse que Maurice Blanchot consacre à Rilke dans son essai « L'espace littéraire » au chapitre intitulé « Rilke et l'exigence de la mort ». Il faudrait en citer chaque phrase. Contentons-nous d'en lire les deux dernières pages. En ce temps où, dans la migration de l'interminable et la stagnation de l'erreur sans fin, il nous faut séjourner hors de nous, hors du monde, et comme mourir, hors de la mort même, Rilke veut reconnaître une suprême possibilité, un mouvement encore, l'approche de la grâce, de l'ouverture poétique, un rapport finalement heureux avec l'ouvert, la libération de la parole orphique, en qui s'affirme l'espace, l'espace qui est un nulle part sans nom. Parler est alors une transparence glorieuse. Parler n'est plus dire ni nommer. Parler, c'est célébrer, et célébrer, c'est glorifier, faire de la parole une pure consommation rayonnante qui dit encore, quand il n'y a plus rien à dire, qui ne donne pas un nom à ce qui est sans nom, mais l'accueille, l'invoque et le célèbre, seul langage où la nuit et le silence se manifestent sans se rompre ni se révéler. Et Blanchot clôt son texte par ces vers de Rilke. « Oh, dis-moi, poète, ce que tu fais, je célèbre. » Mais le mortel et le monstrueux, comment l'endures-tu? L'accueilles-tu? Je célèbre. Mais le sans-nom, l'anonyme, comment, poète, l'invoques-tu cependant? Je célèbre. Où prends-tu le droit d'être vrai, dans tout costume, sous tout masque ? Je célèbre. Et comment le silence te connaît-il ? Et la fureur, ainsi que l'étoile et la tempête ? Parce que je célèbre. Faire de la parole une pure consommation rayonnante. Cette injonction de Maurice Blanchot se retrouve dans les fragments des élégies et les sonnets à Orphée que je vais lire. Ajoutons que les sonnets à Orphée portent l'épigraphe dédicace suivante, écrit comme un monument funéraire pour Vera Ukama Knoup au château de Museau en février 1922. Et Philippe Jacotet, qui a rédigé un essai de présentation de l'œuvre du poète, précise, je le cite, « Rilke écrit à Gertrude Ukama Knoup, une amie de Munich, dont la fille Vera, très douée pour la danse et la musique, mais malade, était morte à 19 ans. En la priant de lui envoyer, Jacotet cite des fragments de lettres de Rilke, de lui envoyer quelques petits objets que Vera aimait, quelque chose si possible qui ait été beaucoup, réellement auprès d'elle. Le 1er janvier 1922, il reçoit, sans doute en réponse à cette prière, les cahiers où Gertrude Ukama-Knoop relatait la maladie de sa fille et il l'en remercie. Voici un premier sonnet à Orphée. Pomme replète, poire et banane, groseille verte. Voilà qui tout exprime vie et mort dans la bouche. Je me doute, mais lisez-le sur le visage d'un enfant quand il y goûte. Oh, c'est de loin que cela monte. Lentement vous vient-il en bouche l'ineffable ? Où n'étaient que des mots, ruisselles, des richesses, hors de la chair du fruit, surprise, délivrée. Ce que vous nommez pomme, allez jusqu'à le dire, cette douceur qui d'abord se condense et finement se pose en vous, sur vos papilles, pour y devenir claire, en éveil, transparente. Nous parlons du soleil, de la terre, d'ici. L'éprouver, le toucher, en jouir. Oh, prodige. Nous sommes en rapport avec fleurs, pampres et fruits. Il ne parle pas que la langue des saisons. Du sombre se révèle un monde chatoyant qui a l'éclat peut-être de la jalousie des morts qui refont, eux, la force de la terre. Que savons-nous de la part qu'ils y prennent ? Ils ont, depuis longtemps, leur façon d'imbiber la glèbe ou de leur moelle, ils se libèrent. Mais il reste à savoir s'ils le font de bon gré et si les fruits, ouvrage de pesants esclaves, une fois pleins, sont élevés vers nous leurs maîtres, ou s'ils sont maîtres, eux, dormant près des racines, et qui nous font, pris dans leur superflu, ce don comme entre la force muette et le baiser. Attendez, cet arôme, or, c'est déjà parti. Rien qu'un peu de musique étouffée en murmures. Vous, chaleureuse, vous, silencieuse fille, dansez le goût du fruit tel que vous le savez. Dansez l'orange. Oh, qui pourrait l'oublier ? Elle, comme elle résistait en se fondant en soi à sa propre douceur. Vous l'avez possédée, précieusement en vous, elle s'est convertie. Dansez l'orange et son paysage plus chaud, rejetez-le de vous qu'à l'air de sa patrie mûre. Elles resplendissent, ouvrez-la, la brûlante, arôme sur arôme. Entrez en parenté avec l'écorce qui se refuse, la pure avec le suc qui la remplit, la bienheureuse. Après ces trois sonnets à Orphée que j'ai lus, extraits du premier livre, puisque les sonnets à Orphée sont composés de deux livres, un extrait de la troisième élégie, la fin, les vers de la fin de cette troisième élégie. Tu vois, nous n'aimons pas comme les fleurs durant une seule saison. En nos bras monte, quand nous aimons, une sève immémoriale. Ô jeune fille, dis-toi que nous aimions en nous non pas un être à venir, mais le brassement de l'innombrable. Non pas une enfant entre toutes, mais les pères qui reposent au fond de nous comme des ruines de montagne. Mais le lit asséché du fleuve des mers d'autrefois, mais tout le paysage sans voix sous le ciel clair ou nuageux de la fatalité, tout ce qui vint, jeune fille, avant toi. Et que sais-tu toi-même ? En ton amant, tu appelais la nuit des temps ? Quelle passion montait obscurément d'être disparu ? Quelle femme te haïssait là-bas ? Quels hommes sombres réveillais-tu dans le sang de l'aimé ? Des enfants morts demandait à te voir. Oh, doucement, sans bruit, fais devant lui une des sûres tâches quotidiennes qui te sont chères. Conduis-le près du jardin. Donne-lui la suprématie des nuits. Oh, retiens-le. Pour ceux qui veulent poursuivre la découverte ou l'approche de Rilke, je ne saurais trop recommander, comme je l'ai dit, la lecture de Philippe Jacotet, le petit essai qu'il a consacré à Rilke dans la collection des écrivains de toujours, et le texte de Maurice Blanchot, L'espace littéraire, qui comporte évidemment d'autres chapitres, notamment consacrés à Kafka. Et la musique était de Rachmaninoff, tout d'abord l'opus 3, numéro 1, précisément intitulé « Élégie », interprété au piano par Vladimir Ashkenazy, puis l'opus 16, numéro 3, interprété par Vladimir Horowitz, ensuite l'opus 19, l'Andante, la sonate pour violoncelle et piano, interprétée par Hélène Grimaud et Jan Vogler, et enfin l'opus 33, numéro 8, toujours de Rachmaninoff, interprété par la pianiste Irina Lankova.
Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.